Bonjour, je suis Lucie Rondelet et dans ce nouvel épisode, je vous propose de partir à la rencontre d'Isabelle Collet. Isabelle Collet est informaticienne, enseignante-chercheuse à l'UNIG, l'Université de Genève, et romancière. Elle s'intéresse aux questions de genre et aux discriminations des femmes dans l'informatique et dans les sciences. Je l'ai découverte lors de son intervention dans l'excellente formation en ligne proposée par l'Université de Genève, intitulée « Exercer son esprit critique à l'ère informationnelle ». Je vous retrouve tout de suite en compagnie d'Isabelle Collet. Bonjour Isabelle Collet.
Bonjour.
Je suis ravie de vous accueillir sur cet épisode de podcast. Pour démarrer, j'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi ce domaine de recherche.
Alors, j'ai choisi ce domaine de recherche parce que je suis informaticienne de formation initiale. À l'origine, je ne voulais pas être sociologue, je voulais être informaticienne. Et je fais des études d'informatique, je dirais, sans encombre. C'est-à-dire sans me rendre compte qu'il y avait une grande majorité d'hommes. Enfin, à l'époque, je n'étais pas très observatrice, ça ne me préoccupait pas. Je suis allée jusqu'au bachelor. Et au bachelor, j'ai eu le sentiment que j'étais au maximum de mes capacités en informatique, que ça devenait difficile, que le master allait me demander un effort trop important. Bon, à l'époque, je n'ai pas réfléchi à ça, mais étant donné que je suis sortie dans les premières de mon bachelor, il y avait de bonnes chances que j'étais capable de réussir en master. Mais bref, j'ai arrêté et j'ai cherché du travail. Et là, il s'est passé deux choses simultanément. La première, c'est que j'étais une jeune femme mariée et que mes employeurs imaginaient que j'allais faire des tas d'enfants et n'avaient pas très envie de m'employer. Et la deuxième, c'était que c'était un moment où en France, il y avait une crise de l'informatique, comme on n'en a pas revu depuis. C'était au tout début des années 90. Et comme il y avait beaucoup de gens à employer, mon profil était particulièrement peu tentant. Donc, j'ai déménagé à Paris et puis je me suis dit, ça suffit de tenter de trouver du boulot en informatique. J'étais devenue formatrice, je suis rentrée en sciences de l'éducation dans l'idée que j'allais obtenir un diplôme de formation de formateur, quelque chose comme ça. Et là, j'ai découvert ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque les études de genre, mais les rapports sociaux de sexe en éducation. Et là, j'ai compris plein de choses. Déjà, j'ai compris pourquoi je m'étais arrêtée au bachelor alors que j'avais manifestement les capacités pour poursuivre. J'ai compris pourquoi je ne trouvais pas de travail. J'ai réalisé qu'on était peu de femmes en informatique, etc., etc. Ça m'a évidemment passionnée. Et j'ai commencé. Donc, j'ai fait mes travaux sur le genre en informatique. Puis, j'ai fait une thèse sur le genre en informatique. Et puis, comme ça m'a passionnée, je suis restée. Alors, je serais devenue une informaticienne parfaitement heureuse si j'avais trouvé du travail en informatique, je veux dire, par là, un travail intéressant, pérenne, où on me faisait confiance, où je pouvais faire carrière. Ça n'a pas été le cas au bout de 6 ans. Donc, je suis devenue une sociologue parfaitement heureuse également, mais je n'ai pas quitté l'informatique par déception de la discipline en me disant que finalement, ça ne me convenait pas ou que je m'étais trompée d'orientation, ce n'était pas pour moi.
Existe-t-il aujourd'hui une discrimination sexiste dans le domaine de la tech et de l'informatique ?
Alors, il existe aujourd'hui une discrimination sexiste dans le domaine de l'informatique, comme il en existe partout. C'est-à-dire, on est dans une société qui n'est pas encore égalitaire entre les hommes et les femmes. Ce serait quand même bien étonnant que le monde de l'informatique y échappe. Cela étant dit, alors on peut constater en somme que les femmes cadres en informatique rencontrent les mêmes discriminations, les mêmes blocages que toutes les femmes cadres qui sont dans le privé. Il y a une petite chose particulière en informatique que là, l'informatique partage avec tous les métiers techniques, c'est que les femmes sont suspectées de plus d'incompétences que les hommes. C'est-à-dire, il existe toujours une division socio-sexuée des savoirs, c'est-à-dire cette idée que pour un sexe, certains savoirs sont attendus, voire désirés, supposés comme naturels, normaux, bref, ça ne pose pas de question, et d'autres savoirs sont perçus comme impossible, tabou, infamant, inaccessible, totalement inconnu. Et on dit que c'est une division socio-sexuée parce que selon votre classe sociale, ça aggrave le phénomène. Je vais vous donner un exemple. Imaginez un garçon qui serait enfant de parents des classes supérieures et qui dirait « Papa, maman, je sais ce que je veux faire, je veux être esthéticien ». Bon, la conversation risque d'être pas si simple. D'une part, parce que esthéticien, il annonce une transgression par rapport à son sexe, et il annonce aussi une transgression par rapport à sa classe sociale. C'est-à-dire, normalement, ses parents se seraient attendus à des ambitions plus hautes. Bon, une fille de classe populaire qui rentre en disant « Papa, maman, suite à ma semaine de découverte des métiers, je veux être data scientist ou je veux faire de la cryptographie. » Bon, bah déjà, il y a des chances qu'il faille qu'elle explique à ses parents ce que c'est qu'être data scientist ou faire de la cryptographie. Et puis, deuxièmement, elle annonce une transgression par rapport à son sexe. Ça alors, une fille peut-elle faire ça? Et aussi une transgression par rapport à sa classe, parce que ça annonce des études longues, mal connues, peut-être payantes, donc ça ne va être pas si simple. Donc, ça, c'est ce qui fait que garçons et filles ne s'orientent pas et ne sont pas orientés de la même manière, et que va peser sur les filles un soupçon comme quoi elles ne seraient pas à leur place quand elles viennent dans le domaine technique. Ensuite, c'est un domaine qui, comme beaucoup d'autres, fonctionne beaucoup par cooptation entre pairs. Et la cooptation entre pairs, la première chose, c'est qu'on se choisit entre soi, on choisit qui nous ressemble. Et on se coopte aussi par groupe de sexe. C'est-à-dire que les hommes ont tendance à coopter des hommes. Et comme dans ce milieu, comme dans bien d'autres, en haut de la hiérarchie, il y a essentiellement des hommes blancs issus des classes socioprofessionnelles favorisées. Ils ont tendance à imaginer dans les personnes qui vont leur succéder des gens qui leur ressemblent, en quelque sorte, à se projeter dans leurs successeurs, et donc ils ont moins tendance à se projeter dans des femmes. Alors vous allez me dire, tout ça, c'est des discriminations qui sont inconscientes. C'est vrai, on va dire, c'est les sociologues qui viennent vous raconter ça, mais c'est plus rarement quelque chose qu'on se dit soi-même. Il y a aussi des discriminations tout à fait conscientes. C'est-à-dire, il ne faut pas se raconter d'histoire. Le sexisme stupide et brutal existe toujours, un peu partout, mais y compris dans le monde de l'informatique. Parmi les interviews que j'ai pu faire, il y avait une jeune chef de projet qui expliquait qu'à un moment donné, elle est tombée, donc elle était placée, elle était dans une ESN, elle était placée chez un client, et à un moment, elle a été face à un client qui ne voulait pas, qui ne pouvait pas, qui n'imaginait pas une seconde qu'une femme puisse être chef de projet et qu'elle puisse avoir des compétences techniques. Donc, chaque fois qu'il posait des questions, c'était à ses collaborateurs, jamais à elle. Quand elle disait quelque chose, il fallait qu'un collaborateur le répète. Bref, c'était un enfer pendant plusieurs années. Elle a été renvoyée à sa propre capacité à gérer le client. Or, elle a une double peine. Tout le monde doit apprendre à gérer le client. Mais gérer un client qui, en plus, ne veut pas de vous parce que vous êtes une femme, c'est une double peine. Donc, pendant 3 ans, le temps qu'elle était placée là, sa carrière n'a pas bougé. Ça a été très compliqué jusqu'à ce qu'elle puisse enfin revenir. Le harcèlement, ça existe toujours, sexiste et sexuel. Le plafond de verre, parce que on va dire, cette femme, elle risque d'avoir des enfants, cette femme, est-ce qu'elle va être mobile? Donc, il y a aussi une discrimination complètement conscientisée qui s'ajoute à cette discrimination inconsciente. Ça me fait penser à deux start-upeuses australiennes qui ont raconté qu'elles s'étaient inventé un partenaire qui s'appelait Peter, et que c'était beaucoup plus facile pour Peter de décrocher des rendez-vous pour obtenir des fonds simplement auprès de partenaires que quand elles étaient L2. Donc, elles avaient un partenaire fantôme qui s'appelait Peter, qui faisait l'homme de la start-up. En Australie, il y a plus d'hommes qui s'appellent Peter dans la tête que de femmes. Donc, c'est dire à quel point on ne s'attend pas à se trouver face à une femme. Et à chaque fois, ça crée une instabilité. Et donc, cette instabilité, malheureusement, n'est pas en notre faveur.
Est-ce que vous avez fait des constats dans vos recherches que vous pourriez nous raconter? J'en ai entendu plusieurs, notamment sur les applications, la reconnaissance vocale, la reconnaissance faciale, mais pas que pour les femmes, aussi pour les personnes asiatiques. Vous avez quelques exemples à nous donner?
Alors, oui, ça fait partie des choses que j'avais pas réalisées, parce que j'avais compris assez vite que la reconnaissance faciale pour les personnes à la peau foncée risquait d'être plus compliquée. Et effectivement, actuellement, on estime que les femmes noires sont moins bien reconnues à 34% que les hommes blancs. Donc, c'est quand même considérable. Je veux dire, vous imaginez, si le centre de développement était composé à moitié de femmes noires, elles auraient dit, 3 fois sur 10, ça ne marche pas, ce truc, ce n'est pas valable, on ne peut pas le relâcher sur le marché. Or, ce n'était probablement pas le cas, mais avec les hommes blancs, ça marche très bien. Je dis que ce n'est pas une surprise parce que c'est un problème récurrent dans la tech. C'est-à-dire, chaque fois qu'une nouvelle technologie apparaît, rien ne prouve qu'elle soit inclusive, c'est-à-dire qu'elle marche de la même manière avec tout le monde. Et en l'occurrence, quand les pellicules argentiques sont arrivées pour faire des photos, elles ont été équilibrées pour bien exposer le visage de femmes à la peau plutôt très pâle, parce que ça servait d'abord pour faire des photos de mode. Et donc, sur la pellicule argentique, les visages noirs passent moins bien, avec beaucoup moins de détails, il faut des pellicules spéciales ou un éclairage spécial pour que ça marche, parce qu'à l'époque, on n'imaginait pas qu'on allait prendre en photo des personnes noires et que ça aurait vraiment une importance d'avoir des lumières bien équilibrées. Donc ça, on va dire, toujours pareil. La différence avec les personnes asiatiques, et c'est paradoxal parce que c'est quand même un très gros marché et des gens qui ont très très vite acheté ces téléphones à reconnaissance faciale et donc ça ne marchait pas bien, parce qu'au moment de l'acquisition du visage, le téléphone doit s'assurer que votre image est correcte et surtout doit s'assurer qu'on ne puisse pas déverrouiller votre application quand vous êtes inconscient ou endormi par mesure de sécurité. Ça, c'est très bien. Sauf que quand les personnes asiatiques faisaient l'acquisition de leur visage, on leur demandait d'ouvrir les yeux. C'est-à-dire que les yeux en amande des visages asiatiques étaient compris comme des yeux fermés, donc ils étaient obligés d'écarquiller les yeux pour acquérir l'image, et ensuite, quand ils voulaient déverrouiller leur téléphone, eh ben, ils étaient aussi obligés d'écarquiller les yeux, donc le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne marchait pas. Bon, ce genre de péripéties, enfin de, alors il y a des choses plus simple et plus trivial, hein. Par exemple, avec des élèves journalistes de l'école de journalisme de Lausanne, on a joué à parler aux assistants vocaux et on a voulu voir si les assistants vocaux étaient capables de comprendre des problèmes qui sont spécifiques aux femmes. Et donc, quand on leur demande où acheter des préservatifs, ils n'ont aucun souci. Quand on leur demande où acheter des serviettes périodiques ou des tampons périodiques, eh ben, soit ils ne comprennent pas, Google Home a proposé des tampons encreurs. Donc, visiblement, ce n'est pas encore tout à fait au point. Voilà. Et alors, donc ça, c'est une façon de montrer aux femmes que la technique ne s'intéresse pas à elles. Et alors, parfois, ça a un effet à rebours. Les premiers GPS qui, quand on leur parlait, comprenait systématiquement mieux la voix des hommes que les voix des femmes, même si l'homme était sur la place passager, donc moins bien positionné pour parler au GPS, parce que les données d'entraînement étaient sur la base de corpus, essentiellement avec des voix d'hommes. Donc ça provoque le fait que les femmes avaient tendance à dire « ça marche jamais avec moi ces trucs-là, je ne suis pas douée ». Non, non, c'est les trucs-là qui ne sont pas doués avec vous. Simplement, est-ce qu'on va tout de suite penser à incriminer la technologie ou son développement, la manière dont elle a été penser, non, c'est plus instinctif de se dire c'est moi qui m'en sors pas. Donc, non seulement les femmes ne sont pas incluses, mais elles ne sont même pas bienvenues parce que la technologie interagit mal dans les applications les plus basiques de tous les jours.
Nous, en rédaction web, on écrit des textes qui sont destinés à être lus par les internautes et obligatoirement, à moins de les désindexer, par les robots, des algorithmes, des moteurs de recherche pour être, dans le meilleur des cas, bien positionnés, mais au moins indexés. Et aujourd'hui, utiliser l'écriture inclusive, c'est compliqué. Ça veut dire qu'on écrit au masculin. Et donc, nos contenus alimentent les données qui sont utilisées par les algorithmes des moteurs de recherche, qui eux-mêmes vont être utilisés par beaucoup d'outils qui vont donner des listes de mots-clés qui vont être réutilisés par beaucoup de sociétés pour être intégrés dans les textes. Et on va faire un cercle comme ça, ça crée un cercle vicieux avec déjà, d'une, un appauvrissement du contenu, mais en plus, on réutilise toujours des mots. Par exemple, donc, on va beaucoup plus utiliser rédacteur web que rédactrice web, etc. Est-ce que vous avez une solution, un avis là-dessus à partager ?
Alors, effectivement, ce que vous dites réalimente. Et il y a eu une recherche qui a été faite sur la base de recherche Google pour faire ressortir des profils. Et donc, il y a des chercheurs qui ont créé deux fausses pages de chercheurs qui étaient computer scientists, je ne sais plus quelle était leur spécialité. L'un s'appelait Adam, l'autre s'appelait Sarah. Ils avaient le même nom de famille, ils avaient la même page. Ils ont mis ça sur le site d'une même université, et puis ils ont laissé tourner un peu. Et puis ensuite, quand ils ont cherché avec Sarah le nom de famille, computer scientist, ou Adam, le nom de famille Computer Scientist, la page Adam sortait systématiquement plus haut. Alors, c'était rigoureusement la même page. Simplement parce que Google calcule que la proximité d'un nom masculin avec Computer Scientist est plus probable que la proximité d'un prénom féminin avec Computer Scientist. Donc, il a estimé que la réponse la meilleure, mais statistiquement la meilleure, hein, c'est tout ce que fait Google, eh ben, c'est avec un prénom masculin. Donc, comme vous dites, vous alimentez. Alors, il y a des manières d'écrire en écriture inclusive qui sont nettement moins lourdes. Je suis d'accord avec vous, hein, quand on dit, enfin moi quand je fais le cours et que je dis les étudiants et les étudiantes, les enseignants et les enseignantes, ouais, ok, c'est lourd, c'est pénible, il faut y penser, je ne prétendrai pas que c'est agréable ou que c'est facile. Quand on met trop de tiret e ou de slash, il, elle, etc., effectivement, au bout d'un moment, ça n'aide pas à la clarté et c'est un peu plus compliqué à lire. Ce n'est pas la seule façon de faire de l'écriture inclusive. La voix passive, des tournures au pluriel, il y a des tas de façons de rendre l'écriture inclusive invisible. Moi, j'ai écrit un livre complètement en écriture inclusive. Des fois, je suis obligée de le dire aux gens parce qu'ils ne s'en sont pas rendus compte, à part quelques tirets de ci, de là, parce qu'il y en a quand même, à un moment, c'est pratique. Mais ça demande une certaine formation. Ça ne s'écrit pas. Enfin, il faut réfléchir. Ce n'est pas insurmontable, hein, mais c'est une technique qu'on apprend très peu. Parce que pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'écriture inclusive n'est pas encore installée, reconnue. Et souvent, on se rabat sur les tirets e ou sur les doubles flexions, il, elle. Et alors, à la limite, c'est contre-publicitaire pour l'écriture inclusive, parce qu'effectivement, dans un certain nombre de cas, ça augmente. On dit, ah, mais c'est illisible avec tous ces tirets e. Ouais, mais ce n'est pas la bonne façon de faire. On se rabat là-dessus en dernier recours, quand finalement, on a suffisamment trituré sa phrase, et puis bon, on laisse tomber, et puis il y a un tiret e qui apparaît, quoi. Bon, il y a un pronom qui fait beaucoup de bruit, qui est en train d'émerger, qui est IEL. Il est tellement pratique quand on fait l'écriture inclusive. Ma foi, je me dis qu'il simplifie quand même plein de choses. Est-ce qu'il va s'installer? Moi, je lis de plus en plus de travaux d'étudiants avec IEL. Alors, la première fois que ça m'est arrivé, moi-même, je me suis dit, tiens, c'est curieux, c'est quand même ambitieux. Bon, maintenant, ça arrive de temps en temps. Bon, ben, quand ça arrivera tout le temps, plus personne ne va sursauter. Bon, alors voilà, c'est peut-être aussi la solution de s'orienter vers un français plus inclusif, sachant que c'est quand même pas mal un problème qu'on a en français. L'allemand, par exemple, a un pluriel féminin. La troisième personne du pluriel en allemand, « sie », c'est la même forme que le féminin singulier. Il y a des langues qui ne genrent pas, mais quand Google Translate agit dessus, eh ben, il se met à genrer quand il repasse soit au français, soit à l'anglais. Donc, de toute façon, on a aussi un problème d'algorithme et pas simplement un problème de référencement.
Oui, au niveau des algorithmes et des traducteurs, il y a du travail. Par contre, je ne me suis pas encore renseignée sur IEL, mais alors, que fait-on si on met IEL et dans la suite de la phrase?
Alors, on n'est pas sauvé pour l'accord de l'adjectif.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
D'accord.
Tout simplement, on est sauvé pour le il, elle, mais on n'est pas sauvé pour l'accord de l'adjectif.
Alors, moi,
il y a aussi des façons d'écrire toust, T-E-U-S-T-E.
Oui.
Tout est toust. Voilà. On est en train d'inventer des formes contractées neutres. Et l'accord de proximité, sinon, quand on a une liste. Quand j'écris les étudiantes et les étudiants, j'accorderai au masculin, et les étudiants et les étudiantes, j'accorderai au féminin, l'accord de proximité.
Vous avez écrit l'informatique a-t-elle un sexe en 2006, donc maintenant ça commence à faire près de 15 ans. Avez-vous constaté de grandes évolutions depuis?
Alors, il y a une évolution majeure qui est la prise de conscience de la situation. C'était déjà pas la solution, hein, mais c'est nécessaire. En 2006, je me souviens, quand j'allais interviewer des responsables informatiques d'école, certains me disaient « Ah ben oui, c'est vrai, je n'avais pas remarqué, il y avait peu de femmes, il y a peu de femmes dans la promo. » Alors, peu, c'était genre 2 sur 25, quoi. Donc, je me disais, pas très observateur le gars quand même. Hein. Ou alors, on me disait « Ah bon, bah, pourtant, il y a beaucoup de femmes en informatique. » Parce qu'ils se souvenaient des années 70, début des années 80, où les femmes étaient encore assez nombreuses. Et ils se souvenaient, par exemple, qu'ils avaient fait des études avec plein de femmes et ils n'avaient pas réalisé que ce n'est plus du tout le cas. Parce que la transformation était à la fois trop vieille pour que les plus jeunes pensent que ça pourrait être normal qu'il y ait des femmes en informatique, et à la fois trop récente pour que ceux qui étaient aussi vieux à cette époque-là, en quelque sorte, aient pris conscience de la transformation. Donc, les plus jeunes qui étaient avec 10% de filles dans leur filière disaient, bon, bah, c'est comme ça, c'est une fatalité, elles n'aiment pas, on ne va pas les forcer, ce serait bien qu'on ait plus, mais elles ne sont pas douées pour ça. Et donc, cohabiter à la fois les gens qui avaient fait leurs études dans les années 80, qui n'avaient pas réalisé que la part des femmes avait chuté, et les gens qui avaient toujours connu ça et qui pensaient que c'était parfaitement normal. Évidemment, ils n'en parlaient pas entre eux parce que ce n'était pas un sujet de conversation. Et donc, il y avait une espèce de déni du fait qu'il y avait un problème parce que, ma foi, somme toute, l'informatique, ça marchait très bien comme ça. Donc, qu'elles aient jamais été là ou qu'elles ne soient pas là depuis peu de temps, bon, bah, ce n'était pas un sujet. Et ce n'était tellement pas un sujet qu'une fois que j'ai fait ma thèse, bah, j'ai arrêté de travailler là-dessus parce que, ma foi, si je voulais trouver une place à l'université, si je voulais qu'on s'intéresse à mes recherches, bah, c'était clairement pas le sujet. Puis j'en avais assez de venir faire toujours des constats. Ben oui, il n'y en a pas. Ben oui, il y a une discrimination systémique. Et alors, eh ben, on ne bouge pas. Voilà, donc ça, c'était assez pénible. C'est en 2015 que j'ai recommencé à m'intéresser à ces questions, à retravailler là-dessus, essentiellement parce que j'ai commencé à avoir des sollicitations, notamment de la Société d'informatique de France, qui organisait une journée dédiée aux femmes en informatique. Et d'ailleurs, c'était amusant parce que je retrouvais dans cette journée des personnes que j'avais interrogées environ 10 ans plus tôt, des femmes qui étaient toujours là et qui avaient enfin réussi à faire porter leur voix. Donc, la Société d'informatique de France, qui consacre sa journée annuelle à ce sujet, c'est quand même pas rien, et qui disent, mais quand même, il faudrait qu'on arrive à comprendre ce qui se passe, parce que, bon, puisque le cerveau n'a pas de sexe, il n'y a aucune raison. Alors, à quel moment, nous, on est discriminants de sorte que les femmes ne viennent pas? Ah oui, alors là, c'est complètement autre chose. C'est-à-dire, c'est plus la faute aux femmes qui ne sont pas intéressées ou qui ne sont pas capables, c'est la faute au système qui, d'une manière ou d'une autre, n'est pas assez inclusif. Donc, à partir de là, on peut recommencer à travailler. Et on peut travailler sur le système et arrêter de dire aux filles, allez, courage, vous allez voir, c'est bien, allez-y. Ce qui ne marche absolument pas, quoi. Et donc, c'est vraiment à partir de ces années où la prise de conscience a commencé à gagner du terrain et où ensuite, il s'est passé l'autre phénomène qui est de dire... Bon, alors, il faudrait qu'on commence à comprendre d'où vient le problème. Non, non, mais comprendre, on a bien compris. Moi, j'ai travaillé dans des projets européens en 2000. En 2000, il y avait déjà des endroits où on se disait, va falloir qu'on comprenne d'où ça vient. Donc, le corpus de recherche n'était pas à jour, mais il existait déjà. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit mon livre en 2019, « Les oubliés du numérique », parce que je ne voulais pas qu'on refasse pour une énième fois les constats qu'on faisait, en gros, depuis 15 ans. Mais cette importante transformation, c'est ce qui permet aujourd'hui cette mise en route d'actions incitatives, de réflexions sur, alors à tout niveau, hein, l'entreprise, l'école, les politiques publiques, pour renverser un peu la tendance. Et on ne se dit plus, bon, ben, ma foi, ça marche très bien comme ça, parce que déjà, on s'aperçoit que ça ne marche pas si bien que ça. Allez voir l'exemple tout à l'heure qu'on donnait sur la reconnaissance faciale, et puis de se dire que, dans une transition numérique qui va a priori emporter toute la société, laisser la moitié de la société de côté, ce n'est pas possible, en termes de justice sociale déjà et en termes d'inclusivité de toute façon.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous connaissez la proportion de femmes en fonction des secteurs dans le numérique?
C'est déjà très difficile d'avoir la proportion de femmes uniquement dans le numérique, au sens où dans le secteur du numérique, il y a 33% de femmes et la plupart d'entre elles sont dans les métiers de support. Formation, documentation, marketing, RH. Donc déjà, il faut faire ce tri, ce qui demande de descendre un peu plus finement dans les données. Alors, quand on fait ce tri, on est aux alentours de 15%. Donc déjà, on se bat sur des chiffres qui sont assez petits. Ensuite, quand on resubdivise, il y avait une évaluation qui avait été faite en disant que la crypto, les startups, c'était plutôt 11. Et j'ai vu, enfin, on m'a annoncé que dans l'IA, qui était également très bas, on commençait à avoir une progression assez nette. Mais je veux dire, on passe toujours pas les 15%, quoi. Donc, c'est-à-dire on se débat quand même sur des chiffres qui sont tout petits. Alors, on gratte 2-3 pourcentages de ci, de là. Mais donc, il y a des secteurs qui sont pires. Hein. Bon, la crypto, c'est à la fois de l'algèbre et à la fois du militaire. Donc, évidemment, en quelque sorte, on aggrave les choses, quoi.
Alors justement, vous êtes membre du conseil d'administration de Femmes at Numérique. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette fondation, s'il vous plaît?
Alors, c'est une fondation qui est soutenue par qui fait partie de la Fondation de France, qui est soutenue par l'Éducation nationale et par un grand nombre de grosses entreprises, qui a pour mission d'augmenter la part des femmes dans le numérique, principalement en animant un réseau de partenaires, de marraines en particulier, à destination de personnes voulant s'orienter, des femmes et des filles voulant s'orienter dans le numérique, et en lançant des appels à projets financés et suivis tout du long de la réalisation du projet pour permettre plus de femmes dans le numérique. Alors, on a eu un premier appel à projet ces dernières années qui est terminé et dont les projets maintenant vivent leur vie, en quelque sorte, qui était essentiellement ciblé sur l'école, fin de l'école primaire, collège, lycée, et éventuellement toute fin du lycée. Un prochain appel à projet est en préparation, cette fois pour viser plutôt l'articulation entre enseignement secondaire et enseignement supérieur, de sorte qu'on va réussir à augmenter ce vivier, parce que pour que les entreprises… Alors, il y a des métiers où le prétexte du vivier est complètement factice. Hein, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que, par exemple, dans la recherche en biologie, tout en haut, il y a nettement, nettement moins de femmes que dans le vivier des femmes biologistes. Donc, la question du vivier, il faut vraiment se méfier. Bon, là, en informatique, de fait, avec 15% de filles dans les écoles d'informatique, on a quand même un vivier tout petit. Donc, il est déjà nécessaire d'augmenter ce vivier.
Vous êtes chercheuse, vous êtes donc passionnée. Ça va ensemble, je pense. Hein. On ne peut pas dissocier votre métier de la passion. Je vais vous demander à quoi ressemblent vos journées.
Je peux vous dire au mieux à quoi ressemblent mes semaines, parce D'accord. que mes journées sont toutes différentes. Et alors, c'est peut-être avec une vue de la semaine qu'on se rend un peu mieux compte. Alors, cette question m'amuse parce que avec un copain qui faisait des choses qui n'avaient rien à voir à ce que je faisais, qui était cadre supérieur dans une grosse entreprise de technique, on avait du mal l'un et l'autre à réaliser ce qu'on pouvait faire de nos journées. Donc un jour, on s'est dit, bon ben, on se raconte nos journées. Ce qui m'a en même temps permis de réaliser ce que je faisais, lui aussi, hein, pour une certaine partie. Et c'était quand même des choses extrêmement variées, qui avaient un zapping d'une tâche à l'autre très importante. Alors déjà, les cours, parce que je fais cours, je suis enseignante-chercheuse, donc je fais cours, mais les cours, c'est tout ce que les gens voient, mais en fait, c'est 30% de mon temps de travail. Donc finalement, dans une semaine, les cours, ça ne m'occupe pas tant que ça. Alors par exemple, en ce moment, bah, je fais cours le lundi pendant midi. C'est tout. À d'autres moments, j'ai des périodes bloquées où je vais faire cours toute une semaine. Et puis après, je vais avoir peut-être des semaines sans cours du tout. Mais donc, au global, c'est simplement 30% de mon temps. Donc, clairement, c'est quand on me dit « Ah ben, ça y est, les cours sont finis, t'es en vacances », ça n'a rien à voir. Voilà, ça, ouais, il y a 30% que je ne fais plus, mais c'est tout. Alors ensuite, il y a une grande partie de mes journées qui est consacrée à l'administration de la recherche. C'est-à-dire… je coordonne un numéro spécial d'une revue. Par ailleurs, je dirige une revue sur le genre en éducation. Et puis, je fais des dossiers pour que la commission éthique valide mes recherches. Voilà, des choses de l'ordre de l'administration de la recherche. Ensuite, parce que je suis en Suisse et que c'est comme ça que c'est organisé, je suis responsable d'une équipe de recherche. Responsable, c'est-à-dire que j'ai la responsabilité RH aussi de mon équipe de recherche. À mon équipe de recherche, dedans, il y a des doctorantes. Donc, je travaille avec elles sur l'avancée de leur recherche, mais je travaille aussi sur comment elles vont avoir accès au terrain, les articles qu'elles vont pouvoir écrire. Bref, à la fois, je leur apprends le métier de chercheuse et je fais une partie, j'aide à une partie de leur recherche. Et puis, je m'occupe aussi de leur renouvellement, d'entretien d'évaluation. Il y a une partie de leur travail qui sont le soutien à mes cours et le soutien à la recherche. Donc, je suis littéralement leur supérieur hiérarchique. Et puis, de temps en temps, on a des colonies de vacances pour chercheurs qu'on appelle congrès, où nous partons. Alors, en ce moment, on est beaucoup moins partis hein, ces dernières années, mais nous partons nous retrouver autour d'un thème de recherche, soit étroit, soit très vaste, pour rencontrer la communauté de recherche qui travaille sur la même chose que nous. Et le fait qu'on ne puisse plus se rencontrer et se déplacer nous a montré à quel point la partie des congrès la plus importante, ce n'était pas tant ce qu'on allait présenter, mais qui on allait rencontrer et comment on va discuter de nos travaux. Parce qu'il y a certes le moment où on fait notre présentation, où là, éventuellement, on se donne à connaître à des gens qui ne nous auraient jamais rencontrés. Mais ensuite, bah ensuite, on va discuter, on va comparer nos recherches. Et c'est là où le boulot se fait. Et c'est là où le boulot ne peut absolument pas se faire quand on est sur Zoom. Et puis, il y a une dernière partie. Remarquez, ça va encore en quelque sorte dans l'administration de la recherche. C'est évaluer la recherche, évaluer des articles, des soutenances de thèse, etc. Et donc, tout ça, bah, ça se mélange dans la semaine avec des vagues. Il y a la période des colloques, il y a la période de correction copie, il y a la période de correction d'avancée des cours, etc.
Passionnant. Et vous avez des loisirs à côté?
Oui, je fais de la recherche. Non, pardon. Non, alors à vrai dire, depuis juin dernier, je suis vice-présidente de la section des sciences de l'éducation. Bon, c'est supposé être un 30% de travail. À l'arrivée, c'est plutôt un 50%. Et ça a eu raison de mon samedi. Donc les loisirs, c'est plus compliqué. Sinon, je vais vous dire que j'aime énormément voyager. Ah, depuis 2 ans, c'est quand même pas de chance. Donc voilà. Alors, si, j'ai. Je vais vous montrer avec quoi je compense. Alors, ça ne marchera pas sur l'audio. Voilà. À défaut de loisirs, je construis des skylines en Lego.
Ah oui, j'avais vu ça sur.
Ah, vous avez vu ça avec le PFL. En attendant de pouvoir revoyager, et ben voilà, je construis des skylines en Lego.
Merci beaucoup, Isabelle Collet.
Merci.
On suivra votre actualité de près. Merci encore.